Le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gosse, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Aujourd'hui, l'émission va être animée par moi-même, Roxane Deniger, et Sandy Tremblay.
Bonjour tout le monde!
Donc, on va tout de suite aborder la première partie de l'émission avec sur le travail atypique chez les jeunes, la formation qu'on a suivie à l'Institut national de recherche scientifique. Premièrement, Sandy, est-ce que tu peux nous présenter les transformations récentes du monde du travail?
Je vais vous faire ça très sommairement parce que on pourrait vous en parler pendant des heures et des heures, puis on pourrait même vous endormir sur le sujet. C'est un petit peu le constat qu'on a fait lors du colloque international. C'était des gens très intéressants qu'on a rencontrés, des gens qui provenaient de partout dans le monde, mais des chercheurs universitaires. Alors, parfois, c'est un petit peu monotone. C'était plus la qualité du contenu qui importait que la capacité de rendre intéressant le contenu, justement. Enfin, je vais essayer d'être un petit peu plus dynamique. Mais juste pour vous expliquer qu'au niveau des transformations dans le monde du travail, on se rappelle qu'avant les années 70, c'était beaucoup le travail à la chaîne. On travaillait dans des manufactures, on produisait des produits en série et c'était on rentre au travail le matin, on repart après. C'était une relation avec l'employeur très hiérarchique, un taux de syndicalisation quand même assez élevé aussi, mais le travail à la chaîne qui est primé. Au milieu des années 70, il y a eu une augmentation de la concurrence. De plus en plus d'entreprises qui se concurrençaient sur le type de produit. Alors, les entreprises, pour augmenter leurs profits, n'ont pas eu le choix d'augmenter les standards de qualité. Si on veut que, comme le consommateur et la consommatrice ont le choix entre deux produits à peu près pareils, deux détergents à vitre, admettons, si on veut qu'ils achètent le nôtre, il faut, un, faire en sorte qu'au niveau de la qualité, notre produit soit meilleur. Et il faut aussi miser beaucoup sur le marketing, sur la publicité, pour faire en sorte que les consommateurs et consommatrices choisissent notre produit plutôt qu'un autre. Ça l'a tenu bon à peu près jusqu'au milieu des années 90, où là, on a constaté la mondialisation à grande échelle qui commençait à prendre place, une délocalisation. Donc, les entreprises fermaient ici pour aller s'installer dans les pays où ça coûtait moins cher de produire, soit parce qu'il y avait moins de normes du travail, donc moins le salaire n'était pas le même, il y avait moins de normes environnementales à respecter, pour toutes les questions dont on connaît à peu près tout le débat autour de la mondialisation et la délocalisation de nos entreprises. Alors, pour maintenir nos emplois ici et pour garder notre standard, au fond, pour les entreprises n'ont pas eu le choix pour garder leur clientèle d'avoir recours à beaucoup, beaucoup d'innovations. Parce que sinon, bien là, pour être concurrentiel, si tu n'as pas un produit qui se démarque des autres, tu es aussi bien de déménager puis d'aller le fabriquer là où ça va te coûter moins cher. Parce que sinon, le consommateur et consommatrice va toujours choisir le prix le moins cher. Alors là, on a constaté que nos entreprises s'en allaient graduellement. Alors depuis le milieu des années 90, ce qu'on a constaté, c'est que dans les milieux de travail, la relation a changé entre l'employeur et l'employé. Et ça, quand je dis dans les milieux de travail, on s'entend qu'on ne parle pas de tous les milieux de travail. Ça ne peut pas être une règle qui s'applique à l'ensemble des milieux de travail. Mais dans beaucoup de secteurs, surtout ceux qui ont innové, que ce soit au niveau de la technologie, la recherche, des choses comme ça, ce qu'on constate, c'est que les travailleurs veulent plus, et les travailleuses évidemment, veulent plus être considérés comme une machine. Lorsqu'on faisait du travail à la chaîne, c'était comme pas grave. On y va, on pèse sur le bouton, on regarde la chaîne défiler, puis on s'assure que le boulon y est bien vissé. Maintenant, le travailleur et la travailleuse semblent désirer un autre type de relation dans leur entreprise. Alors, on doit miser beaucoup, si on veut avoir des employés compétents, envers l'attachement envers l'entreprise. Il faut que la personne qui travaille se sente partie prenante du résultat, qui a envie de contribuer à la réussite de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Comme je vous rappelle, ce n'est pas dans tous les milieux de travail que ça s'applique, mais surtout dans les nouveaux milieux. Et l'impact de tout ça, c'est que dans les milieux de travail, on laisse une place très importante à l'initiative. Beaucoup d'idées sont prises qui sont issues des travailleurs et des travailleuses. Et il y a moins de hiérarchie au niveau de la relation. Et quand je dis de la relation, c'est plutôt au niveau de l'approche. Si ton employeur arrive Il semblerait, selon les études, on s'entend par ces chercheurs de l'université qui nous ont présenté ça, il semblerait que lorsque ton employeur arrive en disant « ben moi, je veux que tu fasses tel geste », l'employé va être un petit peu plus rébarbatif. Alors, il faut y aller avec une approche un peu plus en douceur, puis faire en sorte un petit peu de motiver l'employé pour que toutes ses idées soient reçues, puis qu'il n'ait pas l'impression que ça lui est imposé. Mais tout ça est relatif.
C'est toute une question de perception. Est-ce que les transformations du travail ont permis aux gens d'augmenter leurs conditions de travail?
Pas du tout, Roxane. Soyons réalistes. Les conditions de travail n'ont pas du tout augmenté. Dans toutes ces transformations-là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu une hausse très importante du travail atypique. Hein. On s'entend que maintenant, c'est plus de 50 % des travailleurs et des travailleuses en bas de 34 ans qui ont un emploi atypique. Alors, quand on parle de travail atypique, on vous rappelle qu'on parle d'un travail à temps partiel, d'un travail à contrat, d'un travail sur appel, d'un travail autonome, donc qui ne laisse aucune place à aucun avantage social, aucune protection sociale, à part le régime québécois d'assurance parentale. Et sinon, si vous voulez avoir des protections sociales, vous devez payer pour, hein, vous devez cotiser et la part de l'employé et la part de l'employeur. Alors, il y a moins de syndicalisation, évidemment, hein, si on a recours à des gens à contrat, à temps partiel, sur appel. Il y a moins de chances que ces gens-là puissent se syndiquer. Donc, il y a vraiment eu une perte au niveau des conditions d'emploi. Là, ça l'a vraiment nivelé vers le bas et c'est très malheureux. L'autre chose qu'on peut constater, c'est que de nos jours, de plus en plus de milieux de travail vont offrir un revenu qui est lié à la performance. Donc, si tu accomplis la tâche demandée, tu vas avoir, si ça permet à l'entreprise d'augmenter son profit, tu peux avoir un bonus à la performance. On l'a vu entre autres dans les grandes banques, on s'entend. Là, durant la crise économique, les gens n'étaient pas très d'accord à ce que les présidents d'entreprise et autres employés aient des gros bonus au rendement, parce qu'évidemment, ça l'invite parfois l'employé à diminuer ses standards de qualité pour aller chercher un petit peu plus d'argent. Là, dans certains domaines, on l'a vu. Et il y a une obligation de résultat aussi. On fait beaucoup place à l'initiative, mais en contrepartie, si jamais le travail d'équipe ne fonctionne pas, si jamais tu n'atteins pas les résultats demandés, ben, tu n'as pas de protection. Là, on va te mettre à la porte, puis on va en prendre un autre qui va faire la même job que toi. Tu n'as aucune protection. Et évidemment, ben, comme je vous disais, il y a moins de syndicalisation. Alors, la négociation, elle est beaucoup plus individuelle au niveau des conditions de travail. C'est chacun pour soi. C'est vraiment lié à la capacité que tu as de te vendre, de vendre le produit, que tu deviens ton propre produit, au fond, là, ta machine créatrice. Et je vous rappelle encore que ce n'est pas dans tous les milieux de travail, mais dans les milieux où ça s'applique, là, beaucoup la nouvelle technologie. Alors, c'est à peu près ça qu'on constate. Il y a vraiment eu une nivellation vers le bas.
Dans le fond, juste une petite parenthèse, c'est sûr que moi, je n'ai pas connu le travail avant, puisque je suis née en 87. Donc, je suis venue avec le changement des... du monde du travail, sauf par exemple ce que je pourrais dire personnellement, ce que je trouve, est-ce qu'il y a place à l'initiative? Peut-être dans les moyens d'atteindre ton résultat, mais ton résultat était toujours imposé. En fait, ça fait juste te responsabiliser si c'est un échec, c'est de ta faute. Et aussi, est-ce qu'on peut vraiment dire beaucoup d'idées? Des fois, je suis sceptique ou des fois, on a des idées trop fortes puis on peut se faire un petit peu réprimer.
Effectivement, il faut quand même toujours que ce soit en lien avec la perspective de l'employeur. C'est quand même lui, c'est son entreprise, c'est lui qui a le gros bout du bâton.
Donc, il y a toujours un petit peu de hiérarchie.
Oui. Puis, tout à l'heure, quand on parlait de place à l'initiative, beaucoup moins d'idées, moins de hiérarchie, on pourrait le voir aussi comme une espèce de... d'ailleurs, le chercheur qui nous parlait de ça nous disait que c'est important d'avoir des personnes aux ressources humaines, d'avoir une personne à la ressource humaine qui a beaucoup de talent. Pour essayer, j'ai juste le mot manipuler là, en tête, là, j'en ai pas de meilleur qui me viennent, mais de manipuler les employés pour faire en sorte que tout le monde pense qu'il contribue à la réussite de l'entreprise puis que c'est grâce à lui, grâce à ses idées, même si dans les faits, on va tous s'en aller vers le but visé par l'employeur. T'sais, il faut vraiment que la personne aux ressources humaines soit capable d'amener les gens à créer une cohésion, d'avoir envie de travailler pour l'entreprise, même si, comme on l'a vu après, les retombées au niveau des conditions de travail ne sont pas si extraordinaires que ça. Là. C'est sûr qu'une personne qui aurait beaucoup de capacité à se vendre, qui aurait un cheminement de carrière exceptionnel, puis qui aurait contribué à bien des réussites d'entreprise ou quoi que ce soit, aurait sûrement la chance d'aller chercher un très, très gros revenu. Là. Mais malheureusement, comme c'est une négociation individuelle, il n'y a pas d'égalité entre les travailleurs. Tous les principes d'égalité envers le travail, au fond, hein, là, on les perd. Là, on les a complètement perdus.
Donc, c'est pas très réjouissant. Est-ce que ça se passe comme ça partout dans le monde?
Il semblerait que oui. On avait plusieurs conférenciers et conférencières lors du colloque international sur le travail atypique chez les jeunes. Ces gens-là provenaient à peu près des quatre coins du monde. Nous, on parle de la Tunisie, le Maroc, le Brésil. Il y avait des gens d'Afrique et tout. Et ils ont dépeint une réalité qui semblait à peu près similaire partout. C'est sûr qu'il faut rajouter à ça pour, lorsqu'on parle de la capacité d'un jeune travailleur ou d'une jeune travailleuse à intégrer un emploi qui n'est pas atypique, avec de bonnes conditions de travail. Dans certains pays où l'État a fait un emprunt important au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, on se rappelle que ça, c'est des banques qui sont comme supra-étatiques, là, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, et en contrepartie de ces prêts-là, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale vont obliger, dans la plupart des cas, les pays à diminuer la fonction publique, donc de rendre au privé tout ce qui est service public. Ça fait en sorte que, en plus de couper dans les services publics dont, où on retrouve les programmes pour les jeunes travailleurs et travailleuses en recherche d'emploi, on peut penser à l'assurance chômage au Québec. Mais là, nous, ça ne nous touche pas parce qu'on n'a pas fait ce genre d'emprunt-là. Là. Ça ne veut pas dire que nos programmes sociaux sont exceptionnels, on s'entend, là. Mais il semblerait que ce soit encore pire ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de programmes d'intégration. Là, nous, on pense à Emploi Québec, chez nous, qui... Ce n'est pas des programmes parfaits. Nous, à Illusion Emploi, on prend beaucoup pour que ces programmes-là soient bonifiés et de beaucoup. Mais dans d'autres pays, il n'y a aucune ressource. Là. Tu perds ton emploi, tu n'as pas d'assurance-emploi, tu n'as pas de revenus, tu n'as plus rien. T'sais. Alors ça, c'est une des choses qu'on constate. Puis en plus, les gens qui ont contracté, les États qui ont contracté des prêts importants, bien, comme ils ont réduit leur fonction publique, on s'entend que dans une société, dans les emplois les plus stables, les plus intéressants au niveau des conditions de travail, il y a entre autres toute la fonction publique, que ce soit chez nous municipale, provinciale ou fédérale. C'est quand même des emplois qui offrent des conditions moins précaires qu'ailleurs. Et ça, c'est de moins en moins vrai, là. Ça nivelle vers le bas, ça aussi. Là, on peut penser à tout maintenant la question des contrats où les jeunes doivent, pour atteindre un emploi qui n'est pas atypique, ça peut prendre encore bien des années, même dans la fonction publique, mais il semblerait que la réalité est encore pire dans certains pays qui ont contracté une dette importante. Alors ça, c'est un malheureux.
Oui, c'est ça. Puis en Italie, dans le fond, je me souviens, par exemple, l'État se désengageait puisque là-bas, la famille était très importante. Et si les enfants n'ont pas d'emploi, en fait, ça devient la responsabilité de la famille. Donc, il n'y a pas d'investissement de l'État dans les programmes d'emploi, mais plus au niveau familial.
C'est ça.
Puis aussi, c'était quand même intéressant de voir qu'il y avait 12 % du travail, un type de travail, c'était... justement, tout ce qui était illicite, mafia et tout. Donc, quand c'est un type de travail, c'est 12 % de ton pays, c'est...
Ça devient une masse énorme, là, quand même.
Oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est toujours plus accueillant au niveau financier, travailler de façon illégale que...
Oui, c'est de l'argent rapide, hein?
Ouais.
Et puis, l'autre affaire que je trouve intéressante dans ce que tu as dit, Roxane, c'est... Effectivement, le rôle revient à la famille de supporter la charge de la personne qui a peut-être une trentaine d'années puis qui n'a pas réussi à se trouver un emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi disponible dans son domaine ou dans sa région ou quoi que ce soit. Mais dans un contexte de crise économique, ce qu'on constate, c'est que même la famille est affaiblie. Là. Même la famille, peu importe dans quelle région du monde tu vis en ce moment, tout le monde est touché par la crise économique. Puis même pour la famille, ça devient un poids très important qui est de plus en plus difficile à assumer. Là. Et en plus, ben, effectivement, là, ça prend le désengagement de l'État, ce qui n'est pas du tout une valeur que porte Illusion Emploi. Et nous, ce qu'on a constaté aussi dans les intervenants qu'on a rencontrés, c'est que plusieurs jugeaient que ce constat-là il n'était pas alarmant. Parce qu'au fond, quand on regarde les études, ça démontre que les jeunes en bas de 30 ans ont un travail atypique, sont à temps partiel, à contrat, sur appel. Le revenu n'est pas stable. Parce qu'on s'entend toujours qu'un travail atypique, ça va avec des conditions de travail précaires. Là. C'est évident que le revenu est moins élevé, la sécurité d'emploi, etc. Il y a moins d'avantages sociaux et tout. Nous, à Illusion Emploi, puis dans la majorité des groupes avec lesquels on travaille, on n'est vraiment pas d'accord avec ce constat-là parce que la plupart des intervenants faisaient le constat que c'est un cheminement normal puis qu'au fond, ça coïncide avec la période de scolarité qui est de plus en plus grande dans le monde. Non, nous, on n'est pas d'accord avec cette valeur-là. Ce qu'on juge, c'est qu'effectivement, une personne qui n'a pas fini l'université, donc en bas de 22-23 ans, ça peut correspondre à c'est pas tout le monde qui sera à l'université, là, on s'entend, là, mais ça peut correspondre à la réalité de certains des jeunes travailleurs et travailleuses. Mais en réalité, c'est pas normal. Puis nous, on est bien d'accord on est d'accord à accepter que certaines catégories de jeunes qui vont aux études ont des conditions de travail atypiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter que ces conditions-là soient précaires. Ça, c'est la première des choses. C'est une chose d'avoir un travail atypique. Je travaille à temps partiel, je suis aux études, j'aime mieux travailler à contrat parce que je n'ai pas le temps dans mes périodes de fin de session de m'impliquer énormément. Ça, c'est une chose, mais on n'acceptera jamais que ce travail-là soit précaire. Et l'autre affaire, ce qu'on constate, c'est que maintenant, ça va jusqu'à l'âge de 30 ans et dépasser 30 ans avant que les gens parviennent à un emploi plus stable. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, une réalité qui n'est pas acceptable pour nous. On va aller à la pause et on revient tout de suite après en musique et on continue notre discussion après. Merci.
CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
Là, tu rentrais ta raffinerie, c'était pas un soir comme les autres. Tant d'années habitées par tant de routines, pour si peu d'estime, fini, usé, rouillé. On t'avait remercié et l'envie de crier. Tu gardais ça dans ta peau. Tant d'années à rêver de pouvoir t'en sortir. T'aurais peut-être voulu cacher mieux ta blessure. Ta sueur valait plus cher. Faisait raffiner à longueur de journée. Tu m'as rien dit, mais j'avais compris qu'on t'avait blessé. Tu m'as rien dit, mais j'avais compris qu'on t'avait blessé. Chose que la cicatrice sur ton bras gauche, et ça venait des mêmes tours de ciment, des mêmes géants qui vomissent leur mazout dans Saint-Laurent. C'était une nuit où personne ne dormait. Pourtant, c'est pas le silence qui manquait. C'était une nuit où chacun gardait l'eau, à l'abri du vent, du froid, des océans de ciment.
Vous voilà de retour à la complainte du travail. Comme on le disait dans la première partie, nous sommes allés au Forum social québécois. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le Forum social québécois, Sandy?
Je vais faire ça très sommairement, mais rappelons-nous que le Forum social québécois, il est un peu issu du Forum social mondial. Les forums sociaux mondiaux, parce qu'il y en a à peu près à chaque année aussi, se sont eux-mêmes mis en place suite au Forum économique mondial, où les grandes têtes dirigeantes de ce monde se réunissaient ensemble pour décider de notre avenir et de dans quelles conditions on va vivre. Alors, les mouvements sociaux en général se sont dit on devrait faire la même affaire, mais plutôt pour voir l'autre côté de la médaille, puis comment faire pour lutter contre les injustices sociales. Alors, ils se sont mis, je pense, c'est peut-être pas à toutes les années, là, je vais vous avouer, je me souviens pas si c'était à toutes les années ou à toutes les deux ans, mais une fois de temps en temps, en marge du Forum social économique, tous les mouvements sociaux se réunissent. La dernière fois, je pense que ça a été en Amérique latine, ça a été en Afrique aussi. On s'en va, on se réunit ensemble et C'est un endroit où on peut avoir accès à un paquet d'ateliers. Ça peut être pour enrichir nos connaissances, ça peut être pour développer des expertises qu'on n'a pas aussi. Et le Forum social québécois, c'est un peu dans le même sens, mais sur l'avenir de Québec. Comment imaginer qu'un autre Québec est possible et quels sont les enjeux des citoyens et des citoyennes de notre province et comment on peut faire pour parfaire nos connaissances sur ces différents enjeux de notre société. Résultat, il y a des organisations, des mouvements sociaux qui vont soumettre des idées d'ateliers. Il y a environ, là, on s'entend, on parle d'à peu près cette année, plus de 1500 participants. Je n'ai pas le total exact, mais on sait que la première édition, il y avait plus de 5000 personnes qui se sont présentées, là. Alors, c'est des ateliers qui sont libres. On ne sait jamais combien de personnes vont siéger dans ces ateliers-là. Nous, ce qu'on a, c'est un feuillet qui nous explique un peu de quoi on va traiter dans l'atelier. Et chacun des citoyens et citoyennes présentes choisit d'aller assister aux ateliers qui touchent leurs valeurs et qui les intéressent. Alors, c'est à peu près ça. Est-ce que ça l'explique un petit peu, là, ce que c'est?
Oui, ça l'explique qu'on a beaucoup de choix aussi, beaucoup de liberté. J'imagine que tu ressors de là avec beaucoup de revendications et de pistes de solutions.
Oui, effectivement. C'est sûr que ce n'est pas tous les ateliers qui touchent des sujets où on va noter des revendications. Là. Il y avait entre autres des ateliers sur faire du macramé. Là. Ça se retrouve aussi, ça va de tout acabit. Là. Ça passe de gauche et pas de gauche à droite, ça ne se rend jamais à droite. Mais ça va un peu de tout. Il y avait une place où on apprenait à faire de la choucroute, hein, mais ça va aussi dans le sens des cuisines. C'est une cuisine collective. Alors, il y avait quand même la philosophie en arrière de ça, même si à première vue, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait retirer de là? Mais il y a toute une philosophie en arrière de ça. Nous, évidemment, Illusion Emploi, on s'est attardé principalement aux ateliers qui touchaient l'emploi. C'est évidemment notre domaine de prédilection. Alors, le premier thème a touché la syndicalisation, c'est les jeunes. C'est un atelier qui était offert par divers syndicats. C'était une coalition entre la FTQ, la CSN et la CSQ. Et les constats qu'on a premièrement vus, c'est le fait que le taux de syndicalisation chez les jeunes était vraiment à la baisse. Alors là, c'est intéressant parce que les trois intervenants qui étaient présents, c'était des jeunes issus de chacun de leurs syndicats. Pardon. Ça, c'est pas chic à la radio. Et les principales revendications et les pistes de solutions que ces jeunes-là ont apportées, c'est la question de l'amélioration de la législation. Parce que le gouvernement, en ce moment... Oh, mon Dieu! Je vous ferai plus ça. Je vais travailler fort pour ne pas vous tousser ça dans le micro tout le long de l'entrevue. Ce que le gouvernement souhaite imposer aux syndicats, c'est imposer le vote. On sait qu'en ce moment, lorsqu'on veut syndiquer un milieu, il faut vendre des cartes de membres. Et lorsqu'on a plus de 50 % des travailleurs et des travailleuses dans une entreprise qui veulent être syndiqués, on fait une requête en accréditation et lorsqu'elle est acceptée, ça passe. Le gouvernement voudrait ajouter à ces démarches-là le fait qu'une fois qu'on a 50 % plus 1 des travailleurs et des travailleuses qui veulent se syndiquer, qui ont adhéré, qui ont pris leur carte de membre, qu'on doive passer par un vote. Alors là, ce qu'on souhaite, ce que les syndicats disent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, on va se syndiquer », mais lorsqu'il faut qui lèvent la main en assemblée puis qui débattent de leurs points parce que là, ça devient plus difficile. Il faut que tu rencontres ton employeur, c'est une assemblée, etc. Les syndicats ont très peur de perdre le peu de pouvoir, pas le peu de pouvoir, mais que ce soit un obstacle de plus à la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses. Et on sait que la syndicalisation est à la baisse en ce moment. Alors ça, c'est une chose. Ils travaillent très, très fort pour pas que le gouvernement aille dans ce sens-là. L'autre revendication qui a été abordée, c'est la question des champs libres. Parce que souvent, ce que les syndicats, c'est intéressant parce que c'est des jeunes syndicalistes qui critiquaient au fond leur propre syndicat. Ils disaient, on perd énormément de temps à faire du maraudage entre syndicats. Faire en sorte que le milieu syndiqué, lors de sa prochaine convention collective, décide de syndiquer avec notre syndicat au lieu d'un autre syndicat. Mais ce qu'on devrait faire, c'est aller voir les champs libres, les entreprises qui ne sont pas syndiquées. Malheureusement, ça amène toute la question des jeunes parce que les jeunes, principalement, ce qu'on a vu la semaine passée, ce qu'on a vu même dans la première partie de l'émission, pardon, c'est que les jeunes ont un travail atypique. Alors, travail à temps partiel, sont dans le milieu beaucoup de la restauration et du commerce. Alors, c'est des milieux qui sont difficiles à syndiquer, mais il faut investir ces champs-là. Pardon. Alors, il faut quand même investir les petites entreprises qui ont parfois un travail très précaire et atypique, mais il faut les investir. Il faut aussi que les centrales syndicales considèrent les intérêts des jeunes. On parle beaucoup de conciliation travail-famille. Prenez toute la question des infirmiers et des infirmières où ils sont en pénurie de recrutement. Ce n'est pas évident pour une jeune infirmière qui commence de savoir à l'avance que pour les 15 prochaines années, le temps qu'elle va créer, fonder sa famille et tout, elle n'aura jamais de vacances l'été, elle ne pourra jamais prendre une journée de congé durant la semaine de relâche pour passer du temps avec sa famille. Et la réponse que leur fait les travailleuses qui sont là depuis plus longtemps, c'est « Écoute, ça m'a pris 20 ans à acquérir ce droit-là, je ne vais pas te laisser prendre des vacances durant l'été, c'est moi qui ai la priorité. » Fait qu'on est vraiment dans un conflit où qui a tort, qui a raison, c'est pas si facile à faire, mais comment on va faire pour concilier les deux? C'est surtout ça, parce que si on veut lutter contre la pénurie d'infirmiers et d'infirmières, entre autres, là, ça se trouve dans un paquet de milieux de travail, il faut vraiment favoriser la conciliation travail-famille. Alors ça, c'est vraiment des idées qui sont ressorties lors de notre premier atelier. Ça a été très, très, très intéressant.
Également, vous avez suivi un deuxième atelier sur l'exploitation des mines d'or, si je ne me trompe pas.
Oui, effectivement, ça nous a présenté toute la question de l'exploitation puis de l'exploration du sous-sol. Si on prend, entre autres, l'exemple de Malartic, Malartic, c'est une région là, qui est dans le nord du Québec, là, dans le coin de l'Abitibi-Témiscamingue. Et les industries de mines, d'exploitation minière, surtout dans ce secteur-là, c'est de l'or. Les industries peuvent acheter ce qu'on appelle un claim. Il n'y a pas de mot français pour ça, je m'en excuse. Là. Un claim. Un claim, c'est tu achètes le droit de faire des fouilles dans le sous-sol d'un territoire pour vérifier s'il y a de l'or, puis éventuellement, tu sais, ressortir l'or qu'il y a là. Acheter un claim, ça ne coûte pas tellement cher. Tu n'es pas obligé, t'es obligé de faire des fouilles sur une petite partie de ton territoire seulement et indépendamment de ce qu'il y a au-dessus de ton territoire. C'est-à-dire que tu deviens propriétaire du sous-sol, mais même s'il y a un propriétaire qui a une maison sur le sol de ton territoire, tu peux t'as le droit de l'exproprier. Tu as le droit d'arriver, de cogner chez lui puis de dire combien tu veux pour ta maison parce que moi, je veux vérifier si en dessous de ta maison, il n'y a pas un petit peu d'or et que le propriétaire soit d'accord ou pas, que vous n'arriviez pas à vous entendre ou pas. De toute façon, en bout de compte, l'industrie a le droit d'exproprier ces gens-là. Alors, les gens qui étaient là pour nous parler de ça nous parlaient, entre autres, de l'incongruité de cette loi-là. Elle a tellement de pouvoir, là. Normalement, la loi qui, dans une société, prime ou presque surtout, après la Charte des droits et libertés, c'est le droit à la propriété. Hein? Quand tu es sur ton territoire, tu fais à peu près tout ce que tu veux, jusqu'à temps que ça ne brime pas la liberté des autres. Mais là, ce qu'on vient dire, c'est qu'indépendamment que tu sois propriétaire ou pas, la personne qui est propriétaire du sous-sol a priorité sur ce qui t'appartient à toi. Et ça amène tout un conflit pour la population locale, parce que advenant le cas qu'ils découvrent de l'or, oui, ça créerait de l'emploi. Dans quelles conditions? Possiblement avec d'excellentes conditions salariales, des avantages sociaux et tout, mais pour combien de temps? Hein, ce n'est pas des mines qui sont...
La météo, selon Environnement Canada, en ce mardi...